Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez suivre une formation technique, digitale ou de gestion?
Faites-vous accompagner financièrement pour gagner en compétences et en compétitivité.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Restez donc surtout en piste Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu. Dewey sans tête. Dewey, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
La suite de la série de Christophe Cessieux sur Lance Armstrong. La semaine dernière, c'était Lance Armstrong, le héros. Cette semaine, c'est la chute de l'icône.
Au soir du 24 juillet 2005, triomphant et arrogant sur le podium des Champs-Élysées où il vient de remporter un 7e Tour de France, Lance Armstrong a des allures de maître du monde. Assis sur une fortune considérable, ami des riches et des présidents, compagnon d'une rockstar, le Texan va pouvoir goûter à une retraite dorée. Et il n'est pas du genre à cocooner dans sa villa de luxe, Lance. Non, à bord de son jet privé, il parcourt le monde, donnant ici une conférence, collectant là des millions de dollars pour sa fondation contre le cancer, ou visitant à la Maison Blanche son ami George Bush. Tout semble aller pour le mieux, pourtant, à l'horizon, de gros nuages noirs se rapprochent à grands pas. La première averse, Armstrong l'a subie quelques mois auparavant, lorsque deux journalistes, le français Pierre Ballester et le britannique David Walsh, font paraître en 2004 un livre intitulé L.A. Confidential, les secrets de Lance Armstrong. Un livre à charge contre l'Américain, dans lequel témoignent deux de ses proches, son ancienne masseuse Emma O'Reilly et Betsy Andre, l'épouse de son ancien équipier Frankie. Betsy raconte notamment une visite rendue au Texan en 96 sur son lit d'hôpital, où il soigne son cancer.
On était allé lui rendre visite à l'hôpital. On était plusieurs dans sa chambre. Les médecins sont entrés et ils lui ont posé des questions. Ils lui ont demandé, entre autres, « Avez-vous déjà pris des produits dopants ?» Lance a répondu qu'il avait pris de l'EPO, des hormones de croissance, de la testostérone, des stéroïdes et de la cortisone. Frankie et moi en avons parlé après. Et Frankie a dit « Je ne savais pas qu'il prenait tous ces trucs. »
Des révélations qui incitent d'autres journalistes, dont Damien Rossiot, à mener l'enquête. Le 23 août 2005, son journal L'Équipe titre en une « Le mensonge Armstrong » et d'apporter en page intérieure les preuves formelles que des traces de PO ont été retrouvées a posteriori dans ses urines en 1999.
Le quotidien sportif s'est procuré les numéros des prélèvements d'Armstrong et affirme, documents à l'appui, qu'ils correspondent pour 6 d'entre eux à des échantillons d'urine contenant de l'EPO. Une découverte impossible en 99 sur le Tour, car les méthodes de détection de l'EPO ne sont pas opérantes à cette époque. Une révélation tardive, mais qui, pour certains, suffit à abattre le mythe du septuple vainqueur du Tour. Sur son site internet ce matin, il nie en bloc les accusations de L'Équipe. Cet article n'est rien d'autre que du journalisme de tabloïd, explique-t-il, avant de réaffirmer, comme à son habitude, « Je n'ai jamais pris de produit pour augmenter mes performances ».
Le bateau Armstrong gîte sérieusement, mais il reste pour le moment à flot. Tant qu'il se tient à l'écart du peloton, le Texan ne constitue pas une menace pour le cyclisme. Mais à l'automne 2008, Armstrong et son orgueil démesuré décident de conjurer le diable.
Je voulais simplement vous dire qu'après avoir parlé longuement avec mes enfants, ma famille et mes proches, j'ai décidé de revenir dans le peloton professionnel.
Un retour qui inquiète les dirigeants du cyclisme. Jean-Marie Leblanc, à l'époque patron du Tour de France, sort alors sa plus belle plume pour convaincre Armstrong de renoncer. Jean-Marie Leblanc m'a écrit et m'a conseillé de ne pas revenir. Leblanc était le plus emblématique patron de l'histoire du Tour. Il savait comment ça se passait. J'étais assommé en lisant ça et à ce moment-là, j'aurais dû juste prendre le téléphone, appeler tout le monde et dire « je vais pas le faire, je le sens pas ». Ça aurait été la chose la plus intelligente à faire. J'aurais eu deux jours de presse négative, mais j'aurais tout esquivé. Tout. Mais le Texan est trop orgueilleux et fait fi des mises en garde. Début 2009, le voilà donc de retour dans le peloton au sein de l'équipe Astana, avec comme coéquipier un jeune et talentueux espagnol nommé Alberto Contador, vainqueur du Tour 2 ans auparavant. Un coéquipier qu'Armstrong va tenter par tous les moyens de déboulonner durant le Tour, n'hésitant pas à monter des coups de bordure pour l'éliminer.
À 20 km de l'arrivée, le vent provoque une cassure dans le peloton. Le septuple vainqueur du Tour en profite pour se glisser judicieusement dans un groupe d'échappés. il réussit à piéger son leader, l'Espagnol Alberto Contador. Le message est clair, Armstrong ne fera aucun cadeau à son coéquipier Contador.
Et quelques jours plus tard, en direction de Verbier, El Pistolero fait parler ses talents de grimpeur. Armstrong comprend ce jour-là qu'à 38 ans, le rêve d'une huitième grande boucle s'éloigne à jamais.
Il est parti, Alberto Contador, favori numéro 1 du Tour, est parti pour devenir le nouveau maillot jaune du Tour de France. Lance Armstrong, Christian Van de Velde et Frank Schleck ne peuvent répondre. Et Alberto Contador dans Verbier s'envole. Le meilleur grimpeur du monde est parti. Alberto Contador va assommer le Tour de France.
L'année suivante, l'Américain tentera un dernier barreau d'honneur en montant sa propre équipe, sans Contador cette fois-ci, mais rien n'y fera. Il vivra même un dernier tour cauchemardesque, achevé à une indigne 23e place.
Je me demande si Lance Armstrong n'a pas été pris dans cette chute. Oui, l'Américain Lance Armstrong est tombé, il s'est relevé, il est déjà debout, il attend vraisemblablement une machine. Une fois de plus, cet Américain qui ne tombait jamais lors de ses 7 tours victorieux, eh bien retombe à nouveau.
Armstrong distancé, Lance Armstrong à l'arrière du peloton.
Une chute qui est tombée de l'équipe Euskaltel.
Devant Lance Armstrong, heureusement il n'est pas encore tombé.
Il est de nouveau dedans. Ah bah là il va être dégoûté, Lance évidemment.
Cette fois-ci c'en est bien fini. Du vélo en tout cas, car les ennuis, eux, ne font que débuter. Et le fauteur de troubles se nomme Floyd Landis, ancien équipier d'Armstrong, qui, à la différence de son compatriote, s'est fait prendre, lui, par la patrouille au lendemain de sa victoire éphémère dans le Tour 2006.
Bonsoir, c'est l'info du jour. Taux anormalement élevé de testostérone. Ça coup de tonnerre dans le monde du cyclisme, car le coureur incriminé, vous l'avez compris, n'est autre que Floyd Landis, le vainqueur du Tour de France. Pour l'Américain, les honneurs n'auront donc duré que quelques jours. C'est à la fois triste et surtout désespérant.
Suspendu durant 2 ans, Landis finit de purger sa peine au moment même où Armstrong et Brunel annoncent la création de Radio Shack. Alors, ni une ni deux, il tente sa chance. Le journaliste américain Reed Albergotti nous raconte la suite. Landis a contacté Brunel et lui a demandé « Puis-je avoir une place dans ton équipe ?» Brunel a répondu « Tu es toxique pour le cyclisme. Tu ne peux pas rejoindre notre équipe. Nous essayons de démontrer que notre équipe est propre et tu es un coureur condamné pour dopage. » Landis était furieux de cette hypocrisie. Johan Brunel parlant d'une équipe propre avec en vedette Armstrong. Mais quelle rigolade. Floyd connaissait toute la vérité. C'était difficile pour lui d'avaler ça. It was pretty tough for him to swallow that. Déprimé, abattu et surtout foudrage, Landis décide alors de vider son sac.
Avez-vous vu Lance prendre de l'EPO ?
Oui, absolument. J'en ai même reçu de sa part en 2003. C'était nécessaire parce que si vous vouliez faire une autotransfusion, vous deviez utiliser de l'EPO pour maintenir votre taux sanguin. Et c'était la routine. Est-ce que ça faisait partie du boulot ? Ouais, c'était une chose banale.
Interrogé sur ces accusations, Armstrong n'a pas tardé à riposter.
Ce mec, Landis, a changé de version tellement de fois. Comment lui faire confiance? Il n'a pas la moindre preuve. C'est sa parole contre la mienne. Moi, je suis crédible.
La crédibilité d'Armstrong pourtant part en lambeaux et ces nouvelles révélations vont entraîner une réaction en chaîne. Tour à tour, une enquête fédérale est ouverte, puis inexplicablement abandonnée, avant que l'USADA, l'agence américaine antidopage, et son patron, l'opiniâtre Travis Tygart, ne prennent le relais. Lui ne lâchera rien. Il fera même craquer tous les anciens équipiers d'Armstrong, même le très fidèle George Hincapie, contraint, sous une menace à peine voilée, de tout déballer. Ils m'ont dit coopérer, vous prendrez 6 mois. Et si vous ne coopérez pas, vous serez banni à vie. Quelques semaines plus tard, c'est armé d'un dossier à charge de plus de 1000 pages que Tygart se présente devant les médias.
Monsieur Tygart, quelle est la meilleure preuve que l'USADA a sur un Lance Armstrong dopé ?
Réellement, toutes les preuves que nous possédons sont convaincantes et accablantes. Nous avons des témoins et des révélations qui n'ont jamais été présentées avant. Désormais, nous avons des preuves formelles.
Des preuves que l'USADA transmet ensuite à l'UCI. Cette fois-ci, Pat McQuaid, le successeur de Verbruggen à la tête de la Fédération internationale, est contraint de lâcher Armstrong. L'UCI va bannir Lance Armstrong du cyclisme et lui retirer ses 7 titres du Tour de France. Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme, il doit donc être effacé. J'ai été écœuré à la lecture du rapport de l'USADA. Une annonce qui fait boule de neige en quelques heures. Tous les soutiens d'Armstrong le lâchent, un à un. Trek, Oakley et surtout Nike, qui rompt le contrat avec son ancienne icône. acculé, traqué, lâché et poursuivi par la justice, Armstrong estimera le coût financier de sa déchéance à 111 millions de dollars. Mais le pire pour le Texan, c'est lorsque Livestrong, sa fondation qu'il a créée et enrichie de près de 500 millions de dollars, le lâche à son tour. Pour Armstrong, c'est la trahison de trop.
The Livestrong situation.
Le cas Livestrong m'a vraiment mis en colère. Si ça avait été moi, j'aurais dit OK, tu prends du recul, un recul indéterminé, mais tu restes le fondateur, le patron. J'ai travaillé si dur pour la fondation que ça a vraiment été une immense déception.
It's a bummer.
Dans ce monde merveilleux, chanté par un autre Armstrong, Lance, l'ancienne idole, devient un pestiféré à qui l'Amérique reproche non pas tant d'avoir triché, mais surtout d'avoir menti. Quant à la planète cyclisme, elle fait à partir de ce jour et à jamais du Texan le symbole même du dopage. Désormais, à l'évocation du nom de l'Américain, on se bouchera le nez. Et lorsqu'on parlera de lui, il faudra ensuite se laver la bouche au savon noir. Pendant que d'autres tricheurs avérés reprendront peu à peu leur place au sein du milieu, comme directeur sportif ou consultant, Armstrong, lui, restera banni et symbole du mal incarné. Une injustice pour certains, un juste retour des choses pour les autres. Après des années difficiles, Lance finira par se reconstruire avec l'espoir qu'un jour il soit absous de ses péchés, même s'il a du mal à y croire. Certains me pardonneront, oublieront, d'autres pas. À un moment donné, les gens diront « voilà ce qui s'est passé, ils jugeront par eux-mêmes ». Je ne sais pas ce que les gens penseront dans 20 ou 50 ans. Le palmarès du Tour restera-t-il vierge sur ces 7 années ? Je suppose que oui, mais je ne sais pas. Est-ce que les gens ne vont pas remettre les choses dans leur contexte et se dire « oui, il a remporté cette fois le Tour de France ». Une question qui démange et dérange les foot vélo, oui, sans dopage, quasi généralisé à l'époque, le Texan serait-il devenu le plus grand champion que le Tour ait connu et non pas le plus grand tricheur? Une question qui restera éternellement sans réponse.
C'était la deuxième partie de cette série en deux épisodes sur RMC sur Lance Armstrong, à retrouver bien sûr en podcast, hein, c'était mieux avant, de Christophe Cessieux. Vous pouvez d'ailleurs encore écouter l'épisode 1 et toutes les chroniques, c'était mieux avant, de Christophe, sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes de podcast. On va pas revenir sur cette histoire d'Armstrong puisque vous l'avez fait la semaine dernière, messieurs. Marc, tu t'es exprimé dessus.